y a chez les hommes quelque chose qui profondément les pousse à aller plus loin, plus haut, plus vite. Et c'est incontestablement le moteur du progrès. C'est très important.
Nous apparaissons et vive la révolution. Au grand jour, nous apparaissons et vive la révolution.
Et ce n'est pas un psychiatre de dire si on est un homme ou une femme ou entre les deux.
Assez, c'est assez, la paix sociale est terminée.
Langue de fronde.
Langue de fronde.
Langue de fronde. Une émission féministe, meuf, gouine, trans.
Langue de fronde.
Langue. Langue de fronde.
Soy mujer, soy en sí, soy quien soy, aquí estoy. Alístense grafiteros en sí, DJ B-Boy, que hoy verán como hip hop el que hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, flow, talento y lírica cruda. La mujer es destreza, valentía y rudeza. ¿Quién dijo que la mujer solo sirve para la limpieza? Podemos ser raperas, lo que quieras.
Vous êtes avec Langue de Fronde pour une émission sur l'accès au logement et à l'hébergement d'un point de vue féministe. Alors ce soir, il y a tout plein de monde en régie et en studio. Pour nous accompagner à la technique, il y a Théo et Maïk. Avec moi dans le studio, il y a Céline.
Bonjour.
Cla.
Bonsoir.
Et deux invités qui vont se présenter.
Moi, c'est Fernande. Je travaille dans une association d'insertion par le logement dans la région Île-de-France. Et du coup, on a des logements d'insertion et des mesures d'accompagnement social.
Moi, c'est Marie et on est une petite association dans le 18e arrondissement de Paris. On accompagne des personnes mal logées.
Et donc avec elle, on va aborder plusieurs choses ce soir. D'abord, pour que les choses soient un peu plus claires pour tout le monde, on va introduire par une partie sur les différences entre l'hébergement, le logement, comprendre un peu de quoi il s'agit quand on parle de CHU, de CHRS, de logement social autonome. Ensuite, on discutera autour et en réaction à deux témoignages de Fatima Zakia et de Madame Hassani, un peu pour comprendre quelle est la situation spécifique des femmes dans l'accès au logement. On parlera également de l'accès au logement pour les familles monoparentales ou lors de violences conjugales. Quoi faire ? Qu'est-ce qu'on peut apporter à ces témoignages-là qui nous sont donnés ? Et enfin, il y aura une partie plus de réflexion sur le travail social dans l'accès au logement avec nos deux invités. Voilà, mais bonne écoute.
Pour commencer donc, quelques chiffres. D'après la Fondation Abbé Pierre, en France, en 2015, 3,5 millions de personnes sont mal logées ou sans abri. Et même plus que ça, 10 millions de personnes sont touchées, de près ou de loin, par la crise du logement. Ça peut passer par des impayés de loyers, par la question du surpeuplement ou l'hébergement contraint, bien des façons d'avoir des problèmes de logement. Presque 2 millions de personnes sont en attente de logement social encore aujourd'hui en France. Et on sait que l'habitat est un cadre matériel et symbolique hyper fort pour tout le reste de la vie, un cadre où on peut se retrouver soi-même, un cadre à partir duquel on peut construire sa vie, ses relations et bien des choses. Mais parmi toutes ces personnes qui sont mal logées ou en attente de logement, où sont et qui sont les femmes, les meufs ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment elles sont touchées par le sans-abrisme ? Parce que même si moins visibles, elles représentent presque un tiers des sans-abri. Et comment elles sont touchées par le mal-logement ?
Du coup, ce qui nous a un peu marqué dans la préparation de l'émission, c'est que le mal-logement, ça concentre des inégalités déjà présentes dans la société. Par exemple, si on parle du travail, ce qui va nous permettre de payer le loyer à la fin du mois, en ce qui concerne le travail salarié, les femmes sont payées entre 20% de moins et 30% de moins que les hommes. Elles sont plus touchées par le chômage ou encore par le temps partiel forcé. Ou contraint. C'est-à-dire, on a l'image du temps partiel d'une femme qui souhaite concilier travail et vie de famille. Eh bien, il faut savoir que le temps partiel, c'est aussi des emplois pour la personne, pour le service, avec des horaires un peu à la con. Par exemple, tard le soir pour une femme de ménage ou une personne qui fait le ménage, tôt le matin. Et ça concerne la moitié du temps partiel. La moitié du temps partiel est contraint. Ensuite, quand il y a une séparation dans un couple hétéro homme-femme, les femmes, pour elles, c'est un facteur de pauvreté. C'est-à-dire qu'elles vont plus souvent avoir la garde des enfants, s'en occuper matériellement et symboliquement, et du coup pécuniairement aussi. 32% des familles monoparentales vivent en dessous du seuil de pauvreté, contre 6,5% des couples. Ça, c'est un chiffre de la Fondation Abbé Pierre 2012. Voilà pour quelques pistes de réflexion sur femmes et logement.
Et dans toutes ces situations, on se rend compte qu'il y a bien des discriminations qui ne vont pas concerner directement les femmes seules ou les mères monoparentales, par exemple, pas directement les personnes étrangères, mais on voit bien que, notamment dans l'accès au logement social, mais de façon générale aussi dans l'accès au logement, il y a bien une sélection, une répartition informelle et opaque entre des populations qu'on va trouver d'un côté désirables, de l'autre côté indésirables. Dans ces critères de désidérabilité ou indésidérabilité, assez flous, on trouvera les mères monoparentales, les mères seules et les personnes étrangères touchées de premier chef.
Est-ce que maintenant, Fernande, tu pourrais peut-être nous éclairer un peu sur les différences entre hébergement et logement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis aussi nous parler des différences de statut, de structure qui existent aujourd'hui dans un cadre national français, quoi.
Bah, un peu comme dans l'emploi, la précarité existe également dans le logement. Et donc les différences de statut, du coup, vont être liées aux différents types d'occupations qu'on va avoir. Donc entre être hébergé ou avoir un contrat d'occupation ou avoir un bail, c'est pas tout à fait les mêmes droits après dont on peut se faire valoir. Donc globalement, quand on est à la rue et qu'on appelle le 115, on se retrouve dans un CHU, un centre d'hébergement d'urgence. L'urgence n'est plus maintenant que de la nuit. L'humanisation, comme on dit, des centres d'hébergement d'urgence ont permis de les ouvrir 24 heures sur 24. Mais tout ça, c'est assez nouveau. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est renouvelé de jour en jour ou de semaine en semaine, mais qui reste fondamentalement particulièrement précaire.
C'est à peu près quand, ça ?
Comment ?
Tu dis c'est à peu près récent, mais c'est à peu près quand ?
Je dirais que depuis 2 ans, il y a des projets d'humanisation des centres d'hébergement d'urgence, alors qu'avant, dès 7h du matin, il fallait quitter les lieux. Les nouvelles lois d'humanisation, depuis 2 ans, je dirais, ont modifié ça, les horaires d'accueil. Et voir, essayer d'ouvrir ces centres-là à l'année. Mais bon, ça, c'est pas encore tout à fait confirmé. Parce que du coup, pendant les périodes hivernales, on se rappelle qu'il y a des personnes sans-abri, mais on les oublie à nouveau pendant l'été. Mais bon, passons. Donc, il y a les centres d'hébergement d'urgence. Ensuite, il y a ce qui s'appelle les centres d'hébergement d'insertion. Donc là, pareil, on est toujours hébergé par une association, mais il y a des travailleurs sociaux qui sont là pour faire de l'accompagnement, pour s'assurer, dans une phase un peu tremplin, de pouvoir viser vers, justement, un logement autonome. Donc là, dans ces cas-là, on signe un contrat d'accompagnement qui fixe des objectifs. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des contraintes, soyons clairs, mais ça permet quand même une meilleure sérénité qu'un quelque chose qui peut être remis en cause du jour au lendemain. Ensuite, on peut avoir des résidences sociales ou des foyers de travailleurs migrants où les personnes ont un statut de résident, un contrat d'occupation, donc qui globalement est renouvelé tacitement tous les mois et qui ne peut prendre fin que si le foyer met la clé sous la porte ou s'il y a vraiment une grave infraction au règlement intérieur, à savoir payer le loyer. Dans tous ces cas, la question des expulsions et comment on expulse et quels sont les droits des personnes dans ces cas-là sont à chaque fois distinctes, mais c'est vrai que souvent les juges essaient de faire respecter à minima une procédure d'expulsion et que les choses passent par le juge. Il faut savoir que quand même dans beaucoup de structures d'hébergement, globalement, il y a des pratiques assez fréquentes où on se retrouve et la serrure a changé et rien n'est passé par le juge. Dans des expulsions informelles, il y a quand même des droits dans ces cas-là et il ne faut pas les oublier. Et je finis juste pour faire le distinguo avec une famille qui est dans un logement social. Dans ces cas-là, on parle de bail à vie. Le bail à vie a ses limites dans le cadre de sous-occupation ou bien d'impayé de loyer ou d'infraction au règlement intérieur également. Mais sinon, c'est un statut dont on peut se prévaloir en tant que locataire en titre.
Très bien. Est-ce que Marie, tu aurais envie d'ajouter quelque chose ou...
Non.
On va passer à la pause musicale de Nancy Sinatra, In My Room, avant de recommencer pour une discussion plus concrète encore.
In my room, way at the end of the hall,
sit and stare at the wall. Each day is just like the last, for I live in the past. In my room, where every night is the same, I play a dangerous game. I keep pretending he's late, and I sit and I wait. Over there is the picture we took when he made me his bride. Over there is the chair where he held me whenever I cried. Over there by the window, the flowers he left. All done. In my room, way at the end of the hall, I sit and I stare at the wall, hating how lonely I've grown, all alone in my room.
FM dans l'émission Langue de Fronde, une émission féministe, ce soir sur la question du logement. On va continuer la discussion par des questions assez concrètes de quels sont les problèmes que rencontrent les meufs dans leur accès à l'hébergement et au logement. Et on a voulu commencer cette partie par un témoignage de deux personnes, Fatima et Zakia, qui ont bien voulu nous dire quelles étaient leurs situations et leurs galères.
Oui, je suis Madame Bourali Fatma. Je suis maman de deux filles. La grande, elle a 6 ans, c'est Shaima. Et la petite, elle a 1 an et 2 mois, c'est Rayana.
Bonjour. C'est Madame Rabi Zakia, la maman de l'Echhab Salim. Mon fils, il a 3 ans.
On est toujours dans le même hôtel depuis 2 ans. Moi, je suis avec elle. Elle, elle est dans la chambre 5 et moi, c'est le 20. En fait, je suis hébergée par le SAMU social, c'est le 115 à Saint-Saint-Denis, ici à Framoisin, depuis 2 ans. Je suis prioritaire de Dalou depuis 2 ans aussi. J'ai pas de changement de situation jusqu'à maintenant. Mais toujours, j'ai le problème de la salubrité, l'humidité. Ils ont passé pour faire des gouttes pour les souris, des cols pour les cafards et des souris aussi, mais ça passe pas. Déjà, c'est... Parfois je dors, j'entends le souris qui craque dans les murs. Déjà c'est trop tard de soigner ça. Il y a l'odeur du fossé dans les chambres, ouais, des égouts, tout ça dans les chambres. On ouvre les portes, parfois il n'y a pas d'électricité, ça coupe pendant la nuit. Parfois il n'y a pas de l'eau chaude, parfois il n'y a pas de chauffage. Jusqu'à maintenant, on dort dans le même lit de 3 personnes. On est 4 personnes parce qu'on n'a pas de la place pour la petite jusqu'à maintenant. La grande, elle fait l'étude dans le lit parce qu'on n'a pas de place, on n'a pas de table pour faire l'étude. La petite, jusqu'à maintenant, elle n'a pas descendu par terre. Pas mal de fois, ils ont dit qu'il y a beaucoup de structures pour les enfants. On peut jouer, comme les PMI, tout ça. Mais on ne peut pas y aller tous les jours à la PMI pour jouer la petite. Je ne peux pas partir à partir de 8h jusqu'à 16h. Je suis dans la PMI pour ma petite profiter à jouer. Non, je ne peux pas. Je vois toujours mes enfants devant moi avec des crises d'asthme déjà. La dernière fois, j'ai la petite qui a tombé des escaliers du lait, qui a été hospitalisée à 1h du soir.
après. Elle a dit 3 ans, on a fait la chambre dégueulasse, l'hôtel dégueulasse, où elle dit toujours malade, asthmatique ou fragile, toujours un des malades de la chambre. Mais sinon, on parle en français, sinon 3 ans, c'est pas bien. Elle dit toujours malade, toujours malade, toujours.
Shaima, je suis au CPB.
Et tu habites où ?
J'habite au Fromazin. Ma mère, elle était choquée parce qu'ils ont vu qu'on était malades, nous deux.
Ça va mieux maintenant ?
Pas mieux. Ma soeur, c'est pas mieux. Et moi, pas mieux.
C'est
on
ça.
Est toujours la même de la situation. Tout le jour, nous, on change de maison pour. Pourquoi les autres qui ont changé de maison et pas nous? Tous les autres sont allés en vacances et pas nous. On n'a rien fait, nous. On est juste en France.
Tu veux dire pourquoi tu es en colère?
Parce que j'ai mal au cœur. Mes enfants, ils sont devant moi. Parfois, la grande, elle veut pas partir à l'école. Parce qu'il y a des copines qui sont rigolées sur elle. Elle est toujours à l'hôtel. Elle est mal logée. Elle est SDF. Elle est à l'hôtel. Je ne sais pas comment elle va concentrer dans la classe. Qu'elle n'ait pas dormi la nuit. Elle est... J'ai peur de l'avenir de mes filles. J'ai quitté le PIB à cause de mes enfants. Pour voir bonne éducation. Pour voir la bonne situation. Mais vraiment, j'ai tombé dans... Le pire. Parfois, elle m'a dit des choses qui m'ont fait mal. Pourquoi on est venu, pourquoi on n'est pas comme tous les enfants? Pourquoi on est comme ça? Je ne peux pas répondre. Je n'ai pas le courage pour répondre parce que je suis moi la grande. C'est moi la grande. C'est moi la responsable. Mais vraiment, c'est difficile pour rester l'âge qu'elle peut jouer. Elle veut vivre comme tous les enfants. C'est ça. C'est pas après 20 ans. Après 20 ans déjà, c'est bon. La plante, elle est grandie. C'est ça le moment de protéger les plantes. C'est pas après 20 ans.
Et il y a des gens qui sont venus constater l'insalubrité?
Tout le monde, mais ils sont tous complices. Parce que pas mal de fois, ils ont venu le 115. Mais on n'a aucun changement de situation. Ils ont toujours marqué qu'il y a des souris, il y a des cafards, il y a ça et ça et ça. Mais il n'y a personne qui a déclaré ça, il n'y a personne qui a changé les choses. Et l'État, il paye beaucoup d'argent pour ça. Parfois, une petite chambre à 1 400 €, ce n'est pas une petite pièce à Saint-Denis.
Comment vous étiez arrivée à avoir un hôtel?
C'était un peu difficile, j'étais hébergée d'un quelqu'un de la famille. Mais après, tu sais bien que la famille, déjà, ils ont des petits studios. Je suis avec mon mari, la grande, j'étais pas avec la petite, pas encore. Mais après, je peux pas, parce que j'étais sans papier, mon mari travaille pas, je peux pas payer moi les charges du foyer où j'étais avec la dame. Après, j'ai parti à l'assistance sociale. C'est elle qui m'a... J'étais enceinte dans ce moment-là. C'est elle qui m'a appelé le 115. J'ai aucun changement de situation depuis les démarches du Dalou. J'ai passé dans l'urgence. J'étais prioritaire. Ils ont obligé le préfet de Saint-Saint-Denis de paiement de 100 euros par jour. Mais jusqu'à maintenant, j'ai aucune proposition. J'ai aucun changement.
Et votre assistante sociale à Saint-Denis, elle dit quoi?
Mon assistante sociale est toujours t'as pas le droit, vous êtes sans papier, t'as pas le droit, vous avez pas des fiches de paie, j'ai pas le droit, j'ai aucun droit jusqu'à maintenant. On espère qu'on trouve déjà des gens qui sont humains, qui veulent pas laisser les enfants dans la merde comme ça. L'État, ils ont oublié déjà les gens qui sont là. Ils ont proché des attentats, des autres choses, mais ils ont oublié les gens qui sont dans la merde ici. C'est ça le moment de protéger les enfants de maintenant. C'est ça le résultat après 20 ans, c'est les enfants de maintenant. Il ne faut pas penser après 20 ans, les enfants ne sont pas bien. Ça, c'est français, marocain, c'est français, tunisien, c'est français. Mais non.
Donc, on vient d'écouter le témoignage de Fatima et Zakia. Merci à Akla et Théo pour la prise de son et d'avoir monté cette tranche de vie.
Et merci à Fatima et Zakia d'avoir bien voulu nous livrer leur témoignage.
J'espère qu'elle nous écoute. D'ailleurs, où avez-vous pu les rencontrer, ces personnes ?
Alors, Fatima et Zakia habitent à Saint-Denis et on les a rencontrés dans le cadre de la permanence logement du centre social La Tiéquée à Saint-Denis. Et voilà.
Est-ce que tu peux peut-être nous dire ce que c'est que La Tiéquée ?
La Tiéquée, c'est un centre social qui est aussi un squat à Saint-Denis, qui existe depuis 2 ans et demi. Est-ce que par rapport à ce témoignage qu'on vient d'entendre, Fernand et Marie, vous auriez des réactions, des choses à dire par rapport à cette situation difficile ?
Oui, effectivement, le témoignage est assez parlant par rapport aux conditions de vie, dans des hôtels du 115. La première chose que je dirais, c'est qu'effectivement, l'absence de titre de séjour n'enlève pas les droits des personnes, notamment pour l'accès à des structures d'hébergement. D'autre part, la solution à l'hôtel 115 n'a jamais été reconnue par le tribunal et par le juge comme étant une réponse adaptée. Là, concrètement, l'État continue à payer des pénalités sur le fait qu'il ne propose pas de place d'hébergement. L'État paye 1 400 € la chambre d'hôtel, tout ça pour ne pas trouver une réelle solution dans une structure d'hébergement pour la famille. Donc c'est effectivement de la précarité organisée en vue d'essayer de briser un peu le moral des familles. Mais du coup, dans ces cas-là, il faut bien essayer de s'accrocher. On a des droits. Et un recours au tribunal administratif, si ce n'est pas déjà fait, enfin visiblement, il y a une pénalité, donc ça a déjà été fait. Mais vraiment de rappeler que le titre de séjour ne doit pas empêcher l'accès à une structure d'hébergement.
Et toi, Marie, comment ça se passe dans ton association ?
Moi, j'ai pas beaucoup affaire à des personnes sans papier. C'est vraiment un problème qui se pose pour nous quand on a des personnes sans papier qui toquent à notre porte. Mmh. On est super démunis. On sait pas quoi leur proposer à part faire un dossier de DAO, donc de droit à l'hébergement.
Ce qui est d'ailleurs le cas de femmes qu'on a entendues qui sont reconnues DAO. Donc,
Et même ça, à notre échelle, on le fait parce que ça existe, mais on a l'impression que ça marche pas du tout. On n'a aucun cas de personne pour qui on a demandé le DAO et pour qui ça aboutit sur une proposition de relogement dans un centre d'hébergement. Donc, en général, les personnes sans papier, on a très peu de solutions à leur offrir. On a vraiment du mal à savoir quoi proposer. Et sinon, ce qui me frappe dans le témoignage, ce que je trouve impressionnant, c'est le décalage en fait entre entre des temporalités différentes, enfin entre le scandale de l'hôtel dans lequel l'État va investir des sommes monumentales mais qui sont des solutions de totale urgence. Ouais. Et ce que racontent ces femmes, c'est que leurs enfants, ils grandissent et ça dure des années et des années et ils sont grands. Et peut-être qu'un jour, ils accéderont au logement, mais ils seront déjà grands. Et ça me parle par rapport aux personnes qu'on suit, ça me parle beaucoup parce que moi, je suis que les personnes qui sont les plus anciennes demandeuses de logement. Donc, c'est vraiment notre travail au quotidien, c'est gérer l'attente, redonner de l'espoir. Et c'est une attente qui est immense. Ça se compte en années, voire en dizaines d'années. Et voilà. Et les solutions dont on a entendu les témoignages, l'hôtel, c'est vraiment contrastant, je trouve.
Et par rapport à cette question, je crois que dans les chiffres que j'avais regardés, concernant l'ancienneté de la demande, puisque tu dis que tu suis beaucoup de personnes qui ont fait la demande déjà il y a longtemps de logement, j'avais noté que 28% des ménages immigrés accèdent à leur demande de logement social après 3 ans d'attente, contre 15% des personnes non immigrées. Donc avec une discrimination qui n'est pas directe, mais par exemple dans le temps d'attente qu'on laisse poireauter ces familles, là la question de quelle nationalité on a devient assez primordiale.
C'est une vraie question à plein de niveaux. Et effectivement, qu'est-ce qui fait que le délai d'attente est plus long ? Mais pour avoir témoigné dans des, pour avoir travaillé dans des départements où le contingent État, donc en gros les logements sociaux que gère l'État, ont été délégués aux communes, du coup chacune des communes nous demandait que des personnes qui relevaient de leur commune. Donc c'est toujours intriguant de savoir qui relève d'une commune. Donc même quand on a apporté un contrat de travail, que ce soit CDD ou temps partiel, ce n'était pas suffisant. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui fait qu'on relève d'une commune? C'est une vraie question quand on parle de population étrangère.
Parce que déjà, pour avoir une attestation d'hébergement ou une reconnaissance de la commune, de faire partie de la commune, c'est déjà une grosse galère où on peut déjà mener des luttes pour ça.
C'est ça. Après, juste deux secondes pour revenir sur les deux témoignages, enfin sur la question du DAO. Donc je ne sais pas si les procédures ont été menées jusqu'à bout dans ce cas-là, mais vraiment de les faire mener jusqu'à bout parce que, encore une fois, les structures d'hébergement ne doivent pas être excluantes des personnes sans titre de séjour. Et voilà. Et après, sinon, éventuellement, sur la question de l'indécence, de bien faire remonter l'état du logement à des associations comme la Fondation Abbé Pierre. Parce que ça m'a marqué quand elle dit tous complices. C'est vrai que du coup, bah, quand il y a des hôtels qui sont payés par l'État et que c'est les services de l'État qui font les contrôles ou c'est les services des communes, mais c'est vrai que du coup, il y a personne vraiment extérieur qui mène son nez. Et du coup, d'avoir des associations potentiellement comme la Fondation Abbé Pierre qui ne sont pas rémunérées par l'État, ça permet aussi d'avoir un regard extérieur et de faire remonter les informations.
Parce que concrètement, sur la question de l'insalubrité que tu poses, Fatima Izaka a raconté qu'il y a des contrôles, elle le mentionne, mais dans ces contrôles, en fait, le jour du contrôle, le propriétaire de l'hôtel fait sortir les familles et montre au contrôle du 115, en fait, donc interne, comme tu dis, une chambre retapée ou la meilleure, enfin celle qui est dans le meilleur état, et c'est tout. Et ensuite, le soir, tout le monde regagne sa chambre insalubre. Et est-ce que vous voulez dire peut-être plus généralement quelles sont les situations récurrentes dans lesquelles se trouvent les femmes qui s'adressent à vous dans vos associations par rapport aux situations? Donc Marie, si tu veux dire quelque chose.
Les femmes qui viennent nous voir, il y a vraiment de tout. Après, on est dans le 18e arrondissement et on prend que des personnes qui sont domiciliées dans le 18e. Donc ça fait déjà un peu un tri en termes de population. On a beaucoup de personnes d'origine étrangère. On a peu de personnes par contre qui sont sans papier. Enfin, au moins dans une famille, il y a au moins une personne qui a des papiers. C'est des personnes qui sont en France depuis longtemps, depuis en général au moins 5 ans, qui ont déjà un fort ancrage avec leur quartier, leur territoire. Bon, j'ai pas les chiffres exacts, mais on doit avoir un cinquième des familles suivies qui sont des familles monoparentales, donc des femmes avec des enfants. En général, c'est plusieurs enfants. Ces personnes-là, ben, c'est des cumuls de pauvreté. Enfin, c'est des personnes soit qui ne travaillent pas et qui vivent des minima sociaux, soit qui travaillent, mais avec, comme tu disais tout à l'heure, des emplois précaires, des emplois à mi-temps, avec des horaires compliqués. Donc elles sont encore plus pauvres que les familles, entre guillemets, normales, ce qui les exclut encore plus de la possibilité d'accéder à un logement décent. Il y a beaucoup, beaucoup de problématiques de suroccupation, parce que ben ça, c'est peut-être encore plus lié au 18e arrondissement. On a beaucoup de logements encore en très mauvais état, insalubres, surpeuplés. Voilà. Après, au niveau des femmes qui viennent chez nous, il y a vraiment de tout. Mais je pense que c'est récurrent, c'est ça. C'est les familles monoparentales, des enfants nombreux, beaucoup de suroccupation et beaucoup d'insalubrité. Et la majorité sont logées, on en a très peu, heureusement, qui sont à la rue. Quelques-unes, mais peu, très très peu, qui sont dans des centres d'hébergement, des résidences sociales. La grande majorité sont logées dans le parc privé, mais elles payent très cher, des logements très insalubres et très petits.
Et du coup, ce qui marque aussi, c'est le fait que la santé des gens est totalement est touchée par ces conditions de logement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On a déjà vu dans le témoignage les problèmes d'asthme pour elle, pour ses enfants. Est-ce que tu vois d'autres de problèmes au fur et à mesure de ces années qui passent?
Ouais, les problèmes respiratoires en général, c'est les plus récurrents. Donc asthme et plein d'autres problèmes respiratoires. Ça touche d'abord les enfants, mais ça touche toute la famille. On a encore un tout petit peu de saturnisme infantile, donc des enfants qui s'intoxiquent à cause de la peinture au plomb, des peintures d'immeubles d'avant 1948. Mais ça, heureusement, c'est vraiment en train de disparaître. Enfin, pour le coup, il y a une grosse mobilisation autour de ce cas-là. Et donc, c'est des problèmes de santé qu'on rencontre encore, mais moins. Après, c'est vraiment des problèmes de santé de tout type. Beaucoup de personnes handicapées, des allergies, des maladies de peau, de l'obésité, des troubles psy très très récurrents chez les personnes, que ce soit les enfants ou les adultes. Et là, je pense que les femmes, elles sont d'autant plus exposées qu'elles sont souvent plus à l'intérieur du logement, parce qu'elles travaillent moins, elles sont plus souvent à garder les enfants, donc elles souffrent d'autant plus d'un logement qui rend malade toute la famille, quoi.
Ouais. Parce qu'en fait, tu me disais que les personnes du coup, qui vivent dans ces conditions-là, par exemple, quand elles sont des hommes, elles vont plus facilement dans l'espace public, que ce soit au café ou dans d'autres... dans la rue, pour échapper à ces problématiques d'insalubrité, quoi. Et ce qui n'est pas forcément le cas des femmes qui doivent s'occuper des enfants, par exemple, ou qui ont un rapport différentiel à l'espace public. Une femme dans l'espace public a plus de remarques ou plus d'agressions. Voilà.
Plus de gêne.
Ouais, c'est ça.
Du coup, moi, je voulais juste dire, pour la prise en compte du saturnisme, il y a un truc où c'est vrai que toutes les choses un peu administratives, du coup, rentrent tout le temps un peu dans des cases. Et le saturnisme n'est pris en compte que quand il y a soit une femme enceinte ou des enfants de moins de 3 ans aussi. Enfin, c'est ça qui fait que... et encore là, il va y avoir seulement une intervention pour recouvrir la peinture au plomb. Donc, c'est vrai que nous, souvent, on se retrouve avec des familles qui sont dans des logements à la décence ou en tout cas presque insalubres. Mais du coup, il y a une intervention qui est faite sur le seul problème de la peinture au plomb. Donc, on rend l'accessibilité à la peinture. Donc, on met une petite couverture. Après, les travaux sont finis. La famille réintègre son logement tel qu'il était, en fait, avant. Et c'est vrai que là, il y a des difficultés pour les familles à ce moment-là. Ils disaient non, mais c'était pas que le plomb le problème de mon logement, quoi. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, on leur conseille d'aller voir la commission départementale de conciliation qui permet à l'amiable, comme on dit, de trouver des solutions si jamais on estime que le paiement du loyer est quand même complètement abusé, étant donné l'état du logement et que les questions de décence du logement ne sont pas du tout réunies. Il y a par ailleurs des petites fiches qui existent d'autodiagnostic du logement qui permettent un peu de s'armer, de se demander... en termes de normes de décence ou d'insalubrité, qu'est-ce qui fait manquement? Donc ça permet déjà de se dire, bon, est-ce que je suis dans un registre qui me permet de faire valoir certains droits, ou en tout cas que mon propriétaire n'est pas suffisamment dans l'obligation de ses devoirs.
Et où est-ce qu'on pourrait les trouver, ces petites fiches?
Alors, je les ai sous les yeux. Pour le coup, il y a une fiche d'autodiagnostic qui existe, qui est juste là et qui est dans un guide réalisé par par l'État, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.
DIHAL.
Voilà. Et donc, du coup, il y a une fiche d'autodiagnostic du logement et des parties communes qui est bien fait parce que du coup, quand on est un peu, quand dans son logement, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire valoir, qu'est-ce qu'il y a comme manquement à la décence. Là, c'est juste des petites croix et tout de suite, on se rend compte où on en est en termes de ce que devrait être un logement décent ou pas. Mais dans tous les cas, souris, tout ça, bon, c'est normalement.
Et
c'est...
on peut l'adresser à qui, tu as dit, cette fiche ?
Commission départementale de conciliation. Donc c'est pour éviter, ou en tout cas en parallèle d'aller au tribunal et de gérer les choses en contentieux, ça permet d'avoir un regard, c'est les différents services de l'État qui siègent et le Conseil général, je crois, je ne suis pas sûre, mais bref... Donc, qui essaie de statut pour voir par rapport aux situations, essayer de faire des premières injonctions aux propriétaires et de proposer des arrangements entre propriétaires et locataires. Donc, ça peut être une première solution, en tout cas, de saisir la commission conciliation du département. Encore faut-il, dans ces cas-là, être locataire.
Et on a parlé de cette question de la santé qui touche de près le logement, du fait de l'insalubrité ou du mal-logement ou du non-logement, dans le cas du sans-abri. Et une des choses qui frappe aussi en écoutant parler Fatima et Zakia et la difficulté de ce qu'elles vivent, c'est aussi que de voir à quel point le logement s'étend, enfin les problèmes de logement s'étendent dans toute la vie, et notamment elle parlait de l'éducation des filles, de la peur qu'elles ont pour l'avenir de leurs filles. Et il y a un collectif à Saint-Denis qui s'appelle Pas d'enfants à la rue et qui justement essaye de montrer à quel point des enfants qui se sentent pas bien à l'école, et c'est pas seulement ce collectif, mais de façon générale, beaucoup d'instituts, beaucoup de profs peuvent le remarquer, que des enfants qui vont pas bien à l'école et qui montrent ce malaise, souvent il y a aussi une question du mal-logement derrière, qui fait que, comme le dit Fatima, c'est difficile de se concentrer à l'école quand on a mal dormi, quand on est malade, quand on est allé à l'hôpital parce que pompe pour l'asthme ou autre. Et donc cette question à la fois de la santé, de l'éducation, du travail, parce que c'est aussi pour les enfants c'est beaucoup plus dur d'aller à l'école, pour les parents c'est beaucoup plus dur d'aller travailler. Tout ça se retrouve un gros méli-mélo et difficile à vivre, quoi.
Ouais.
Ouais, ce que je dirais là-dessus, c'est ce qui est difficile à gérer, c'est aussi dans ces cas-là, enfin souvent on nous, enfin en tout cas les services de l'État sont trop forts à culpabiliser les familles et faire comme si c'était un peu de leur faute ou comme si c'était elles qui étaient responsables de quoi que ce soit, ou en tout cas de globalement quand même c'est enfin il y a toujours cette expression qui me parle, c'est ce truc de salaud de pauvre, mais il y a vraiment quelque chose là-dessus pour avoir vu différents services de l'État et comment ils s'adressent aux familles, c'est vraiment quelque chose de... Enfin bon, c'est toujours ce truc ultra culpabilisant. Oui, mais pourquoi à ce moment-là ils font des enfants, pourquoi machin. Et du coup, on en appelle des fois, soit c'est de l'eugénisme directement. Enfin, enfin vraiment. Ou soit c'est vraiment, mais pourquoi ils habitent pas dans un logement plus grand, mais ils essaient de créer une filière pour être logés. Enfin, des choses assez scandaleuses qui sont dites en perpétuel. Et c'est vrai que du coup, les familles doivent en plus s'affranchir du regard qui est porté sur eux et sur ce truc de devoir démontrer que bah en fait elles se retrouvent là parce qu'elles n'ont pas vraiment le choix, mais déjà ça il y a toujours un soupçon de mais en fait pourquoi et comme si c'était de leur fait, bah enfin bon, c'est là où il faut vraiment toujours interpeller les élus aussi, enfin il y a toujours ce truc de démonstration de bah non en fait enfin je crois que si on pouvait faire autrement on le ferait quoi. Et c'est aussi ça qu'il faut démontrer. Et l'idée, c'est qu'on se retrouve coincé dans des situations, dans des logements qui affectent effectivement, bah, du coup, tous les autres aspects de la vie. Parce que quand il y a des élus qui disent, ah, mais du coup, dans ce cas-là, faut pas faire d'enfants. Enfin, c'est aussi, la conception. Enfin, je sais pas, moi, mais comment les gens, ils gèrent leur vie familiale aussi. C'est le droit à l'école, comment on peut avoir un peu d'espace pour les devoirs. Enfin, c'est effectivement tous les aspects de la vie familiale. Puis après, bah, quand il y a des familles où il y a des violences, enfin, comment on fait pour se séparer dans des conditions comme ça? Enfin, sachant que c'est tendu de vivre dans des situations exiguës, quoi. Donc forcément, il y a des tensions, forcément, il y a des choses qui ressortent, quoi. Bref, mais d'organiser aussi une séparation, ah bah ça y est, ça devient compliqué. Enfin, du coup, les assistantes sociales, elles ont du mal à suivre un peu les complications du quotidien. Et c'est tout ça qui est dur à retranscrire aussi quand on est suivi dans une association. Enfin, moi, je vois les familles, elles ont vraiment un vécu au quotidien, bah oui, qui a une part de chaos, mais comme on peut tout savoir, dans le sens où c'est vraiment, on essaie de survivre au quotidien. Et du coup, dès qu'il y a des cases à remplir après, bah vous êtes en couple, ou vous n'êtes pas en couple, ou vous êtes marié. Et c'est vrai que bah du coup, le quotidien de la vie, c'est tellement difficile à retranscrire dans ces cases. Et on voit l'exaspération des travailleurs sociaux à se dire, mais ça rentre pas dans les cases. Et c'est vrai que c'est toutes ces difficultés quand c'est pas le regard, c'est pas la bonne case. Enfin, il faut être vraiment assez fort pour survivre dans tout ça.
Ça permet d'aborder tous les sujets relégués à la sphère de l'intime et qui pourtant sont politiques.
Tout à fait.
Voilà. Donc là, on va écouter un nouveau témoignage, celui de Madame Hassani. Il a été réalisé par Léo Ridé pour la photo et Léa Minot pour la prise de son. Merci Marie de nous l'avoir transmis. Donc c'était une commande de la Fondation Abbé Pierre.
J'ai trouvé moi et mon mari et un enfant dehors pendant 16 jours. Et c'est le pont, je me rappelle très bien. Comme par hasard, j'habite là, le pont de Barbès. Je vais dormir dehors. Je suis partie à la session sociale, j'ai parti tout. Après, je suis partie dans un hôtel. C'est moi, j'ai payé l'hôtel. Un an, à Alfortville. 4, dans un 15 mètres carrés. Et j'étais enceinte. Quand je rentrais ici, c'était pour moi, c'est un palace. Waouh, les toilettes, la douche, mais très grand par rapport à 15 mètres carrés. Et mon mari, il ne veut pas gâcher. J'étais très contente. Après, il m'a dit, Hanan, vous savez, il n'y a pas de fenêtre. Je dis, ah oui, il n'y a pas de fenêtre. Il m'a dit, Hanan, mieux que dehors. C'est vrai, mieux que dehors. Ça, c'est fenêtre fermée. Je n'ai pas le droit d'ouvrir, c'est interdit. C'est 30 mètres carrés. 4 enfants, seuls, parce que je n'ai pas de mari. 750 euros. Je n'ai pas de fenêtre. Mes enfants, le pauvre, sont traumatisés. Elles disent, les quelles heures, maman? C'est la journée ou c'est la nuit? Tout au noir. Pour moi, c'est cimetière. À la gardienne, elle est super. Nous, on n'a pas le droit de sortir de la cour. Elle m'a donné des plantes pour cacher, Pour quand je sors avec mes enfants, devant la porte, qu'on fait crise d'asthme, c'est la honte.
Sirat Mustaqim, Sirat Ladin, Al-Amta Alayhim, Ghair Al-Maghdoubi, Alayhim Al-Dalin, Amin. Dieu, s'il te plaît, je te supplie, mets une lumière pour nous. C'est maman, son fils avec mon fils à l'école. Elle m'a dit, tu ne me dis pas félicitations. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, j'ai un logement. J'ai dit, tu as fait comment, s'il te plaît, pour le logement? Elle m'a dit, c'est pas la mairie, va à local. J'ai parti avec mes enfants, les quatre. Juste à côté de chez moi, je ne le savais pas. J'ai rentré, voilà, j'ai trouvé une dame, s'appelle Fatima, je pense. Je sais, vous aidez les gens en difficulté pour le logement. Elle m'a dit, tout à fait, c'est vrai. Après, j'ai trouvé une dame, s'appelle Violette. Elle m'a acceptée comme une reine. Rentrez madame, voilà, j'ai donné tous les dossiers, la rempli, tout, moi j'ai rien, de toute façon je ne sais pas écrire. J'ai trouvé un vraiment lumière avec local.
Oui, madame Hassani.
Oui.
Le 5 novembre 2015, j'ai visité le logement de madame Hassani. Les inspecteurs de salubrité ont considéré que le local était impropre à l'habitation.
D'accord.
Ce qui veut dire que le local sera interdit à l'habitation et que madame Hassani devra être relogée.
Je suis très contente là aujourd'hui, c'est vraiment une lumière. Merci beaucoup, merci Violette.
Je sais pas, je pleure, j'ai crié, j'ai envie de crier, je suis désolée, mais merci, oui.
Alors, par rapport au témoignage de madame Hassani, donc elle attend encore son relogement. On attend la prise de l'arrêté, mais qui devrait pas tarder. Et grâce à ça, elle va pouvoir enfin accéder à un logement social décent et qu'elle va pouvoir payer.
Ça fait combien de temps qu'elle attendait?
Ça fait, je dirais, au moins 4 ou 5 mois, là. Ouais, 4 mois, facilement. Et je voulais juste rebondir sur ce témoignage, parce que pour madame Hassani, on a visité son logement et on a dû saisir et faire revenir à plusieurs reprises le service technique de l'habitat, donc pour la ville de Paris, qui est habilité, que vous pouvez saisir vous-même sur Internet avec un petit formulaire très simple, pour qu'ils viennent visiter votre logement et qu'ils diagnostiquent si oui ou non il y a de l'insalubrité ou d'autres problèmes. Et dans le cas de madame Hassani, il y avait clairement un problème vu qu'elle avait un logement sans lumière. Qui n'aurait pas dû être autorisé en fait, pour des personnes pour y vivre. Et on a quand même dû faire revenir le service technique de l'habitat à plusieurs reprises avant qu'ils décident finalement qu'effectivement il y avait un problème, puisque dans les premiers rapports qu'ils nous ont transmis, il n'était pas du tout fait mention de ce problème de lumière. Donc on a un peu bataillé et ça a marché. Mais je pense qu'il y a quand même aussi, peut-être pas pour tout le monde, mais un problème par rapport à ce diagnostic de l'insalubrité est, je crois, quand même une volonté très, très, très timide de la part de la mairie et de l'État aussi de diagnostiquer des problèmes de salubrité et de décence.
Oui, parce qu'en fait, après, il faut trouver des solutions, quoi.
Après, ça leur coûte des sous de prendre des arrêtés et de reloger.
Après, juste 2 secondes, mais sans compter qu'à Paris, il y a un problème particulier sur les micro-chambres, les chambres qui font en dessous de 9 mètres carrés, enfin en tout cas, ou en dessous de 12 mètres carrés, je veux dire, qui ne sont pas du tout dans les normes et qui ne sont jamais, jamais, jamais inspectées, ou en tout cas, il n'y a jamais un rapport qui est fait en termes de manque de décence sur le fait qu'il n'y a pas assez, les chambres au dernier étage ne sont pas assez grandes, quoi. Elles continuent à être louées à des prix.
Petite pause musicale maintenant avec Miss Dynamite, Put Him Down.
In public place.
sur FPP 106.3 FM. Alors moi, je voulais revenir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Fernande, sur comment on crée des catégories et qu'est-ce qu'on fait tout à l'heure, enfin qu'est-ce qu'on fait face à ces catégories, face à ces regards que, enfin, hyper discriminants en fait, qu'on adresse à ces personnes en situation de mal logement. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos associations en tant que travailleuse sociale au quotidien?
Moi, j'ai envie de dire, notre travail au quotidien, c'est justement de retranscrire toute cette complexité, de la rendre dans quelque chose d'à peu près cohérent pour les institutions qui, justement, se bornent à pas vouloir la voir ou qui veulent effectivement un schéma un peu classique de je sors de l'école, je fais des études, il y a des choses où, globalement, ils ont un peu du mal à comprendre qu'il y a d'autres parcours de vie, il y a des forme de précarité qui du coup impacte la vie et qui rend les choses un peu compliquées en fait. Et du coup, nous, l'idée c'est un peu de, moi c'est comme ça que je vois mon travail en tout cas, c'est de rendre tout ça intelligible pour les pouvoirs publics dans toute leur violence qu'elles exercent envers les familles, mais en tout cas de montrer que derrière ce parcours il y a des vies humaines et qu'on peut proposer un projet et qu'on va y aboutir quoi. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. En fait, c'est forcément faire de la médiation entre les violences institutionnelles et la réalité vécue par les familles, quoi.
Ouais, en fait, il y a une forme de normalisation. En fait, quand on assiste, on surveille en même temps, quoi. C'est toute la tension entre assistance et surveillance.
Oui, tout à fait. Mais il y a plusieurs points de vue. Quand on est dans le social, après, il y a une part où l'idée, c'est de dire on va jouer le jeu sur un certain nombre de choses. On va présenter un dossier qui, effectivement, dans telle case, ça rentre. On va faire en sorte qu'à un moment donné, on va présenter quelque chose de cohérent pour jouer le jeu et faire en sorte que ça aboutisse. Il y a des trucs, des raisons pour lesquelles des relogements n'aboutissent pas, parce que les enfants au pays ne sont pas déclarés de la bonne façon. Enfin, il y a juste des petites modifications à faire sur les avis d'imposition. Mais c'est vrai que tout ça, c'est juste faire en sorte qu'administrativement, tout est bien coché pour que derrière, ils disent « Ok, on accepte le dossier ». Mais du coup, toutes ces exigences administratives, c'est essayer de les rendre compréhensibles pour faire en sorte qu'un dossier, entre hier et aujourd'hui, aujourd'hui, il va passer, être accepté en commission d'attribution de logement. Je ne sais pas là-dessus si... Il y a un autre point de vue, mais c'est vrai que du coup, ça fait partie du boulot quelque part de jouer avec ces cases-là, mais de l'expliquer aussi auprès des familles et dire, en fait, concrètement, voilà pourquoi le dossier bloque et voilà ce qu'on peut proposer. Mais après, c'est sans essayer de...
Ça montre à quel point, quand tu n'as pas de ressources, ça paraît tellement impossible d'avoir quelque chose.
Tout à fait.
Marie, tu veux dire quelque chose ?
Oui, je vais dans le même sens que toi. Je crois que notre boulot, c'est de ne pas juger, d'expliquer aux personnes quels sont leurs droits. Comment on fait pour s'en saisir, de les orienter dans un environnement qui est quand même bien compliqué et de jamais faire des choix à leur place. Mais ça, c'est la théorie. Et c'est vrai qu'en pratique, on est toujours en train de... des fois, c'est un peu compliqué, en fait. C'est vrai qu'à jouer avec ces catégories qu'on nous impose, on est parfois un petit peu obligé de s'en servir aussi. Je sais pas, par exemple, on sait très bien qu'une famille de 7 personnes, ça va être très très compliqué de leur obtenir un logement social à Paris, parce que des grands logements, il n'y en a pas. Donc on va avoir tendance à proposer à la famille de décohabiter pour la personne âgée. Est-ce que votre grand-mère ou votre mère, elle voudrait pas aller en résidence pour les personnes âgées? Et les enfants qui sont majeurs mais qui restent au foyer, est-ce qu'ils voudraient pas faire leur propre demande de logement? Et ça, on le fait parce qu'on sait juste que ça va être impossible d'avoir un logement assez grand pour la famille. Mais on est déjà en train de les... nous aussi, de reproduire un peu ces catégories et cette forme de normalisation. Et
ouais, du coup, il faut un papa, une maman et puis 2-3 enfants et pas plus, quoi.
Et la même chose, nous, on travaille quasiment que avec des personnes prioritaires d'ALO. Il faut savoir que quand on a une proposition de logement qui vous vient dans le cadre du DALO, vous n'avez pas intérêt à la refuser parce qu'on ne vous en fera jamais une deuxième. Sauf vraiment les seuls critères qui sont vraiment acceptés par la préfecture pour un refus légitime, c'est vraiment des choses très très spécifiques. Vous êtes en fauteuil roulant et c'est au 8e étage ou c'est à plus de 2 heures de votre logement, de votre travail, pardon. Autrement, ça passe pas. Et souvent, quand même, on se confronte à des refus. C'est assez inexplicable pour nous, des personnes qui attendent depuis des années, voire des dizaines d'années, un logement et qui vivent dans des conditions très dures, mais qui vont refuser un logement parce que c'est pas dans leur quartier, parce que ça correspond pas à ce qu'elles veulent. Et nous, c'est vrai qu'on essaye vraiment parfois de les convaincre d'accepter parce qu'on sait qu'on ne pourra plus rien faire si elles refusent. On n'aura plus de recours possible. Mais là aussi, personnellement, des fois, ça me pose question au quotidien de savoir dans quelle mesure on n'est pas aussi en train d'orienter les choix des personnes. Et je pense qu'on... Il n'y a jamais de bonne solution. Enfin, on est obligé de toujours de travailler dans cette tension-là, quoi.
Ouais.
Et par rapport à cette question des catégories et de tout ce que tu disais, Fernand, sur comment on crée des cases et aussi ce que tu disais, Marie, sur le fait parfois de proposer plus ou moins avec force le départ soit d'un grand-parent, soit de l'aîné de la famille qui est majeur. Il y a une enquête qui a été faite sur qui s'appelle Produire et normaliser les familles par le logement, et c'est vraiment l'exemple du travail de relogement dans la rénovation urbaine. C'est dans le cadre donc d'un plan national de reconstruction. Il y a 140 000 logements qui ont été détruits dans les zones sensibles, et l'enquête montre, je crois, entre 2008 et 2011, que parfois près de 40% des ménages ont été recomposés dans le cadre du relogement. Donc soit ce que tu dis, des ménages plurigénérationnels, soit des familles nombreuses où on demande de faire partir des enfants, soit des ménages en situation de polygamie, et soit, enfin, des mères célibataires ou des mères donc, en situation monoparentale à qui on peut fortement conseiller de se mettre en cohabitation avec la nouvelle personne à qui elle vit depuis, ou avec qui elle a une relation depuis 4 mois. Et donc dans des situations absurdes où une femme va se retrouver... plus ou moins contrainte à vivre avec une personne avec qui elle n'avait jamais envisagé d'avoir une cohabitation. Des situations comme ça qui reproduisent ou renormalisent des situations en vérité beaucoup plus complexes, et tout ça vers quand même une cellule nucléaire, hétérosexuelle de, si possible, un papa, une maman et pas trop d'enfants.
Pour rebondir sur la question des étiquettes aussi, il y a comment elles sont réceptionnées aussi par les services de l'État, à savoir, je me rappelle quand il y avait un dossier qui était étudié, enfin la situation d'une famille qui était étudiée pour un relogement, et madame indiquait être victime de violences conjugales, l'ensemble des représentants des services de l'État et même de certaines associations avaient dit non mais là clairement elle joue la femme victime de violences conjugales. Et donc c'est là qu'il a fallu demander aux services, comme on dit, instructeurs, de regarder dans les dossiers s'il y avait des pièces justificatives sur les violences. Et du coup, il y avait un rapport du médecin qui a indiqué une épaule déboîtée et pas mal de contusions, enfin de chocs qui avaient été produits au moment de la sortie scolaire quand la femme avait été récupérer ses enfants à l'école. Donc on voit aussi à quel point ces catégories, finalement, elles vont être prises plus ou moins au sérieux quand ça arrange, quand finalement ça demande de prendre en compte des réalités sociales et difficiles, en fait.
Je crois que malheureusement, le temps est un peu court et qu'on va devoir arrêter notre discussion. Avant de terminer l'émission, on vous a préparé un petit agenda presque thématique. Au programme, ce mercredi 10 février, à Bagnolet, au local du Rémouleur, il y a un rendez-vous du collectif Prenons la Ville de 16h30 à 19h, suivi d'une présentation du journal sur la rénovation urbaine d'Ivry, le journal Charivari. Vendredi 12 février, il y a un appel à un rassemblement devant le siège social de la Doma au 42 rue de Cambronne, dans le 15e à Paris, avec pour mot d'ordre, bon, je la fais courte parce qu'il y a toutes les informations, on vous les mettra sur notre blog de Langue de Fronde. Donc le mot d'ordre du rassemblement, c'est stop aux RAF dans les foyers, et le rassemblement aura lieu à partir de 17h. Ce samedi, donc 13 février à 14h, il y a un appel à une manifestation devant la mairie de Montreuil, une manifestation en soutien au squat du collectif des Barras, et qui sera suivie d'une soirée de soutien plus tard en mars. Pareil, on vous mettra toutes les informations sur le blog. Et enfin, jeudi prochain, donc dans 2 semaines, le 25 février à 20h, à la bibliothèque associative de Malakoff, il y a un atelier lecture autour du livre de Lucia Katz, L'avènement du sans-abri. D'après ce que j'ai lu, ça, c'est un atelier discussion, critique, lecture d'extraits autour de comment cette catégorie de sans-abri a émergé au cours du 19e siècle et qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire aujourd'hui, qu'est-ce que recouvre cette notion. Voilà, et maintenant on va écouter l'émission Écho de la Palestine. Et je t'en prie, Céline.
Et du coup, merci à toutes les deux d'être venues. Les fiches que vous avez données en coordonnées sont sur le site. Et puis, je voudrais qu'on ait une pensée à toutes les personnes mal logées qui dormiront dans leur logement ce soir, quoi. Freedom, item, meet him, where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key.
weed and Nikitin to live lesbian. We them smartphones don't beat them.
We get our scoop.